France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Elle est un phare pour de très nombreux chefs, notamment celles et ceux qui cuisinent l'Afrique, que ce soit sur le continent africain ou en France. Porteuse d'une cuisine panafricaine inspirée de son enfance gabonaise et de ses nombreux voyages, elle revisite les plats traditionnels et fait souffler un vent de renouveau sur les saveurs du continent, encore victime de préjugés tenaces. Mais notre invitée ne se contente pas d'être une chef de talent. Elle est aussi une ambassadrice et une encyclopédie de cuisine africaine à elle toute seule, avec une connaissance rare des produits et des recettes de toute l'Afrique, qu'elle transmet par tous les moyens à sa disposition. Son dernier livre s'intitule d'ailleurs « Mon Afrique » et c'est une somme de savoir et de saveur. Anto Cocagne, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci beaucoup d'être avec nous. Anto Cocagne, alias Chef Anto, au masculin, parce que Anto, je crois que en galéa, ça signifie femme, donc c'est pas la peine d'être redondant.
Exactement, c'est femme féminin, donc le Chef Anto, c'est le chef au féminin.
Vous êtes une chef à domicile, vous êtes consultante, fondatrice de l'épicerie fine Baraka à Paris, vous partagez votre amour de la cuisine de plein de façons. Vous donnez des cours, vous imaginez des repas, vous présentez des émissions culinaires sur Canal+ ou sur France 5, vous présidez un festival, le Festival des cuisines africaines We Eat Africa, et vous écrivez des livres, Good Afrique au pluriel, en 2019, et désormais donc Mon Afrique, paru en novembre 2024 chez Mango Édition. Et pour discuter avec vous, nous avons invité quelqu'un qui vous connaît bien, qui a d'ailleurs participé à deux de ses livres, Elle cuisine d'abord en 2018, et puis le dernier, L'Afrique cuisine en France, aux éditions La Martinière. Véran Frediani, bonjour à vous.
Bonjour à tous et à toutes les deux.
Vous ne faites pas qu'écrire des livres, Véran Frediani, vous êtes aussi réalisatrice de documentaires, photographe, parce que c'est à vous qu'on doit les photos de cet ouvrage absolument passionnant qui fait le portrait de 20 chefs femmes et hommes venus d'Afrique ou en Afrique, puisque l'idée c'est de faire connaître, là encore, cette cuisine africaine, non seulement sur le continent africain, mais aussi en France. D'ailleurs, dans votre livre, Véran Frediani, il y a les auteurs, Georgiana View de Rouge, Senda Wagena du Bistrot Saint-Clair, Pierre Sioué de la Table Penja, Gilbert Aucoin de Porte 15, Élise et Vanessa Bond de Mikwabo. Il y a celles et ceux qui nous régalent en dehors des restaurants, Carole Befolo, Cédric Massa, Ursula Médaille, Kerastou. Il y a les créateurs de lieux et les outsiders. Et parmi ces outsiders, un phare, pour reprendre votre terminologie, voire même le phare, dites-vous, et c'est Anto Cocagne. Pourquoi donc un outsider, deux phares, Véran Frediani?
Je pense d'abord que c'est le chef Anto qui a démarré en France, qui a ouvert la porte à la cuisine africaine moderne, en fait, en France, par les ingrédients, les techniques, par son savoir, mais aussi parce qu'elle a poussé les portes des studios de radio, de télé, des festivals, pour faire connaître ces ingrédients, ces techniques qui nous venaient d'un autre continent, mais aussi pour les associer à la cuisine française, à la gastronomie mondiale, comme on aime la mettre en avant. Et c'est la première qui, finalement, a essayé de remettre les cuisines africaines sur la map monde de la gastronomie.
Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, Anto Cocagne, vous avez toujours voulu être cuisinière avec une mère nutritionniste, peut-être que ça a joué, je ne sais pas.
Alors moi, j'ai toujours voulu être cuisinière aux grandes dames de mes parents, parce que pour eux, c'était pas un métier valorisant. Et puis, quand on grandit en Afrique dans une culture où les jeunes filles sont éduquées pour être des futures maîtresses de maison, la cuisine fait partie en fait de l'éducation. Et c'est vrai que beaucoup me disaient, mais on va pas t'envoyer en Europe faire quelque chose que tu sais faire déjà.
Vous étiez au Gabon, hein.
Donc j'étais au Gabon, parce que j'ai grandi au Gabon. Mais c'est vrai vrai que j'ai toujours voulu être en cuisine parce que j'aimais les ambiances qu'on avait, les rires, les chants, la transmission. Il y avait beaucoup ce côté transmission et pour moi, c'était la même ambiance que je trouverais en tant que professionnelle.
Et comme vous n'aviez pas de débouchés au Gabon, parce que en fait, être une femme en cuisine au Gabon, c'est pas forcément très bien vu. En tous les cas, dans des restaurants, ça ne se fait pas beaucoup. Vous disiez quand vous étiez petite, en tout cas, vous
êtes venue faire vos études en France. Ça ne se faisait pas beaucoup, et c'est vrai qu'à la fin de mes études en France, naturellement, je veux rentrer dans mon pays pour pouvoir y travailler. Donc, c'est difficile de pouvoir trouver un poste parce que, on a encore ce côté très masculin, et puis même culturellement, un homme ne veut pas appeler une femme chef. Donc, je me dis, je vais trouver les moyens de faire un prêt pour ouvrir mon propre restaurant, ce que je ne souhaitais pas au départ. Et même là, je me suis rendu compte que les banques ne prêtaient pas à ce genre de projet. Et c'est comme ça que je reviens en France un peu à contre-cœur, parce que c'était pas ça le projet du départ. Et que je me dis, tant pis, ce que je voulais faire là-bas, je vais le faire ici.
Et ici, vous n'avez pas ouvert en Tococagne du restaurant? Vous êtes dans une cuisine plutôt nomade, chef à domicile?
Exactement. J'aurais pu ouvrir un restaurant, mais c'est vrai que quand je débute, je suis jeunement maman. Et déjà, le fait d'être dans la restauration, je culpabilisais beaucoup du fait de pouvoir, qu'on me demande, en fait, de choisir entre mon métier, la carrière professionnelle et le fait d'être une maman. Et puis, je culpabilisais souvent quand la crèche m'appelait pour me dire, il faut venir le chercher parce qu'il est malade, et j'avais pas envie, parce que moi, j'avais envie de travailler. Et donc, à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que je trouve le moyen de trouver d'avoir un métier qui me permette d'allier les deux. Donc, gérer mon emploi du temps tout en étant une mère présente.
Et ce qui s'est beaucoup développé, et Vérane Frediani nous le disait, c'est votre envie de transmettre. Vous êtes l'une des premières, sinon la première, à avoir fait autant connaître les saveurs africaines sur le continent européen et en France en particulier, avec cette ambition de faire connaître toutes les cuisines africaines que vous connaissez parfaitement bien pour avoir énormément voyagé, et aussi parce que vous êtes chroniqueuse de télévision et que ça vous fait beaucoup voyager. Et vous étiez aussi, dites-vous, en Tococagne, lassée d'entendre un certain nombre de préjugés, une forme de méconnaissance sur la cuisine, ou les cuisines justement, ou les plats africains ici en France, jugés souvent trop gras, trop épicés, avec beaucoup de méconnaissance finalement. Est-ce qu'entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui, quand même, les choses ont progressé?
Les choses ont progressé, il faut le dire. Moi, je me suis vraiment lancé en 2014, donc ça fait une bonne dizaine d'années, et c'est vrai que les choses ont commencé à changer, et je le vois notamment parmi les cours de cuisine que je fais, parmi les participants. J'ai commencé à donner des cours en 2017, et au début j'avais beaucoup d'afro-descendants parmi les participants, là où aujourd'hui, en tout cas depuis 2020, alors je pense que le fait d'avoir été confiné, les gens maintenant ont besoin de voyager et d'apprendre d'autres recettes de cuisine que les recettes qu'ils ont l'habitude de faire. Maintenant, j'ai quasiment plus d'afro-descendants parmi les participants à mes cours de cuisine, et très souvent même des personnes qui n'ont jamais été dans un restaurant africain sur Paris, des personnes qui n'ont jamais foulé les portes de Château Rouge. J'ai une personne...
Château Rouge, c'est un arrondi, un quartier,
oui,
à Paris.
Vraiment le quartier africain quand on veut faire des courses et choisir des bons produits d'Afrique. J'ai même une qui m'a dit une fois, mais moi ça fait 50 ans que j'habite à Paris, je suis jamais allée là-bas. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, malgré le fait que les communautés africaines soient très nombreuses en France, finalement on connaissait nos cuisines moins bien que les cuisines qui viennent d'Asie ou d'Inde, en tout cas de pays qui sont plus lointains.
Mais pour vous, chef Anto, ce qui était important, c'était transmettre ces connaissances, cette ambition peut-être de faire connaître les saveurs africaines en France, changer les mentalités, les ouvrir. C'est quoi? Il y a vraiment une pédagogie qui vous porte, et je vais demander à Vérane Frediani ce qu'elle en pense. Mais...
Oui, il y avait vraiment une pédagogie parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a des appréhensions, on a des a priori, des préjugés, et donc le fait d'être déjà chef à domicile, je posais beaucoup de questions aux clients. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous retient? Et ce sont ces, par rapport aux réponses que je pouvais avoir, que j'ai décidé d'apporter une solution et de répondre à ces questions.
Véran Frediani, est-ce que cette pédagogie, ce souci de transmettre ses connaissances sur les saveurs africaines, c'est vraiment ce qui définit Anto Kokagne pour vous ?
Bizarrement, moi, j'aimerais parler aussi de créativité. Je pense que c'est très important quand on parle du travail de la chef Anto. Moi, j'ai toujours la chef Anto, mais bon, le chef Anto.
Elle dit c'est pas grave, elle vous en veut pas.
Je sais. Non, je pense qu'il faut parler de créativité parce qu'en fait, au-delà de la transmission, il y a aussi une liberté qu'elle s'autorise à avoir avec les ingrédients venus du continent africain. Une liberté aussi vis-à-vis des recettes traditionnelles françaises. Parce que Anto s'est formée dans les meilleures écoles culinaires françaises et ça c'est intéressant et c'est ce qui m'a intéressée moi dans le livre chez à peu près tous les chefs que j'ai rencontrés, c'est cette liberté qu'ils et qu'elles ont aujourd'hui face à deux continents très structurés au niveau de la cuisine et qui ont besoin d'une remise à plat des traditions. Donc je pense que ça chamboule pas mal les choses ici, de l'autre côté aussi en Afrique, et c'est intéressant. On a tous à y gagner là-dedans, en fait, cette liberté créative culinaire.
Je parlais de progrès dans les connaissances, dans les pratiques. Vous êtes à moitié à Marseille, moitié à Londres, Véran Frediani. Est-ce que depuis Londres, vous trouvez que la France est quand même encore en retard par rapport à ses connaissances, à ses savoir-faire? Qui viennent du continent africain.
Oui, bien sûr. En fait, comme Londres n'a pas une grande tradition culinaire, ancestrale, locale, il y a une mise en valeur de tout ce qui vient de l'extérieur beaucoup plus importante. Et il y a des restaurants aujourd'hui, je dirais, anglo-africains, c'est-à-dire qui mélangent beaucoup, souvent c'est la cuisine du Nigeria avec la cuisine anglaise, et qui sont mises en avant par les guides, même par le guide Michelin, en fait. On a aujourd'hui un restaurant comme Ikoyi qui a 2 étoiles Michelin. On a aussi, bien sûr, l'équivalent de Georgiana View, qui est Joke Bakare, qui est un restaurant aussi étoilé. On a comme ça une mise en avant plus importante et du coup une fierté plus importante. Et je trouve qu'en France, on devrait être très fiers aussi de cette nouvelle cuisine qui est en train de s'écrire dans les restaurants français, qui n'est pas une fusion, qui n'est pas hybride, qui est une nouvelle cuisine, un nouveau chapitre en fait.
C'est une nouvelle génération afro-péenne. Une nouvelle génération ouverte. Comme Anto Kokagne, qui se dit d'ailleurs afropéenne, cette nouvelle génération en France, Véran Frediani.
Oui, je pense que l'avancée, c'est d'avoir bien compris que l'Afrique était un continent avec plusieurs pays, plusieurs cuisines et des ingrédients différents selon qu'on se trouve au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Donc, on peut dire afropéen plus facilement que franco-africain en fait. Ça semble beaucoup plus logique de dire que c'est une cuisine afropéenne.
Alors, une cuisine, effectivement, du continent, ça ne veut rien dire. Il y a autant de différences entre l'Afrique du Sud et le Mali, peut-être qu'entre l'Italie et l'Allemagne, je les prends au hasard, Anto Kokagne. Mais vous les regroupez en six grandes régions, en tous les cas, en six grands groupes. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale sont, par exemple, deux grands groupes. De fait, même si on a fait des progrès, en France, on connaît encore beaucoup et très bien la cuisine du Maghreb, l'Afrique du Nord. On connaît pas mal le Sénégal, on connaît assez bien la Côte d'Ivoire, mais à leur sortie de là, on connaît encore mal les grandes régions dont vous parlez. Il y a encore du travail à faire.
Oui, il y a encore du travail à faire, mais ça s'explique par rapport au tourisme. Le tourisme fait que les personnes, en tout cas les gens qui se déplacent, vont facilement dans un pays. Et quand on va facilement dans un pays, l'une des choses que l'on fait, c'est manger. Et c'est là qu'on découvre plus facilement la gastronomie d'un pays. Et donc, pendant longtemps, le Sénégal, les Français en tout cas qui allaient au Sénégal, n'avaient pas besoin de visa. Donc c'était très facile de pouvoir y aller pour les Français. La Côte d'Ivoire est en train de beaucoup investir sur le tourisme. Pareil pour le Bénin, le Rwanda. Donc ce sont des destinations qui sont faciles, qui sont beaucoup plus ouvertes. Là où les autres pays, ben, pour avoir un visa, et je pense que Véran en a fait l'expérience, en voulant aller en RDC, ben, c'est plus compliqué.
En République démocratique du Congo.
Oui, République démocratique du Congo, c'est plus compliqué. Et donc ça décourage. voyage. Et donc, ça n'encourage pas aussi à découvrir la cuisine de ces endroits-là.
La cuisine et les plats, puisqu'en fait aussi, on connaît guère que trois plats, le mafé, le yassa et le tiboudienne.
Ah oui, ça, sorti c'est le top 3.
Voilà, sorti de là, il y a quand même des choses... Il y a quand même des choses qu'on connaît mal. Vous dites-vous que le pays qui vous a quand même le plus bluffé d'un point de vue de la cuisine aujourd'hui, c'est le Cameroun.
C'est le Cameroun. Alors j'ai vraiment eu une vraie claque au niveau culinaire, parce que contrairement à la plupart des pays où j'ai voyagé, des pays d'Afrique, les autres pays ont retrouvé la même cuisine d'une région à l'autre. C'était souvent les mêmes plats qui revenaient. Alors qu'au Cameroun, ils ont vraiment une maîtrise des épices locales. Ils n'utilisent très peu de bouillon industriel. C'est vraiment les épices locales. Donc, ils ont une façon d'assaisonner qui est juste incroyable. Mais en plus, quand vous voyagez d'une région à une autre, dès que vous changez de région, la cuisine change complètement.
Il est 12h16 sur France Culture. On écoute les bonnes choses et notre invité aujourd'hui est Anto Cocagne avec Vérane Frediani. Elles ont toutes les deux écrit un livre absolument passionnant, deux livres parce que c'est pas le même livre, absolument passionnant sur les cuisines africaines et les nouvelles têtes de la cuisine africaine.
Je suis arrivé étudiant, je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement et là, j'avais pas envie de manger quelque chose qui m'est pas familier. J'avais quand même envie de temps en temps retrouver ce côté un petit peu du Sénégal. Fallait que je me débrouille. La viande, elle coûte cher. Faut qu'on trouve des plans B. Donc, par exemple, quand je faisais un mafé, il y a des moments où je mettais pas de viande. Je mettais full légumes. Mais ça permettait quand même de pouvoir retrouver un petit peu quelque chose de similaire à ce qu'on mangeait. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les gens... J'aime beaucoup la cuisine qui est fusionnée. Et moi, c'est quelque chose que j'adore parce que je suis dans un pays qui m'accueille et du coup qui a une richesse culinaire incroyable. Par exemple, le bœuf bourguignon, je l'avais repris en remplaçant le vin rouge par le bissap. Un jour, j'avais fait aussi un archi parmentier. J'ai remplacé la pomme de terre par le manioc. C'est vraiment un beau message qu'on peut passer à travers la cuisine, cette fusion des saveurs.
Chef Anto, vous avez reconnu cette voix ?
Oui, un cher Nyang, qui s'appelle Nyang Cook et qu'on retrouve sur les réseaux.
Extrait d'une émission sur le Sénégal diffusée sur Arte. Et pourtant, il utilise un mot que vous n'aimez pas du tout.
Non.
La cuisine fusion. C'est pas votre truc.
Non, c'est pas mon truc. Parce que pour moi, quand on dit fusion, ça veut dire qu'on crée quelque chose. On ne reconnaît plus. Bah, c'est comme deux parents, l'un d'origine africaine et l'autre qui va être caucasien. Ça donne un métis, donc on n'a plus ni la couleur blanche ni la couleur noire. On a une autre couleur, donc on crée quelque chose de nouveau. Et pour moi, quand on dit fusion, c'est qu'on efface l'identité un peu de chaque... voilà. Et moi, ce que je veux, c'est prôner une cuisine où même quand on met deux ingrédients de deux continents différents, on puisse reconnaître les ingrédients de chaque continent. Et c'est pour ça que je dis que c'est une cuisine où les produits plutôt collaborent, où c'est plutôt panafricain, voilà.
Cuisine ou africaine, minimaliste même, vous dites, pour la vôtre, relevée d'une French touch.
Exactement.
Bon, c'est un peu plus long, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un plat emblématique de votre cuisine, qui est une cuisine moderne, mm-hmm. inspirée de vos connaissances, mais aussi de vos souvenirs au Gabon, notamment. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont vraiment ceux que vous utilisez, que vous aimez particulièrement? J'ai un peu envie de vous faire parler de l'Odika, qui vient du Gabon, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est ici mm-hmm. en France.
Alors oui, l'Odika, c'est vraiment l'un de mes ingrédients préférés, parce que l'Odika que les immigrés français appellent au Gabon le chocolat indigène. Pourquoi ? Parce que c'est, en général, c'est fait avec une amande, l'amande du manguier sauvage, qui va être torréfiée comme des fèves de cacao et qui va être réduite, elles vont être réduites en pâte et mises dans un bloc pour, en tout cas dans un moule qui va, et après refroidissement, elles vont devenir dures, cette pâte va devenir dure comme on ferait avec une barre de chocolat. Et après, avec ça, on fait une sauce qui a la couleur, qui a l'odeur du chocolat, mais qui n'est pas du chocolat. Et c'est vrai que quand moi je le cuisine à mes clients, je dis toujours que c'est l'un des rares chocolats qui est planté par les éléphants dans la forêt, parce que ce fruit est très prisé par les éléphants de forêt.
Et pourtant, on ne le trouve pas encore, Lodika, dans votre boutique épicerie fine de Paris dans le 15e arrondissement. On n'est pas à Château-Rouge, on est vraiment à Paris dans le 15e arrondissement, en Tococagne. Boutique que vous avez ouverte il y a quelques mois, dans laquelle on trouve beaucoup d'épices qui viennent du Cameroun. Un curry, par exemple, qui vient du Cameroun. Bien entendu, le poivre de Penja, qui est un fameux poivre, qui est d'ailleurs l'un des rares produits à avoir l'IGP.
Indication géographique. Trafic protégé, oui.
Il y en a encore peu venus d'Afrique subsaharienne. Par rapport au Maroc, il y en a 50.
Il y en a peu. Aujourd'hui, on en a 6. On a au Cameroun le poivre de Penja, le miel d'Oku. On a en Guinée le café Ziama. On a récemment au Bénin l'IGP l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. On va avoir aussi l'attiéké récemment en Côte d'Ivoire, l'attiéké des lagunes, donc qui est une semoule de manioc. Donc c'est vrai qu'on a très peu encore d'IGP par rapport au Maroc qui a une cinquantaine. Et ça passe aussi par le fait que les agriculteurs n'ont pas encore conscience de la richesse de nos produits et ils n'ont pas encore cette conscience qu'un produit qui est bien fait peut être vendu beaucoup plus cher à l'extérieur.
Vous vendez aussi la rondelle du Cameroun, au goût d'oignon, mais qui sent très fort la truffe blanche. Et vous aimez beaucoup, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun quand même, vous aimez beaucoup les graines de néré que vous vendez du Togo, qui ont le goût, l'odeur et le goût de parmesan.
De parmesan. Alors ça a vraiment été une grande découverte durant un voyage au Togo. Cette graine qui est comme une graine de haricot, qui est fermentée et qui, après fermentation, a un goût qui se rapproche du fromage. Et ça, je disais, mais pour mes clients qui sont véganes ou qui ont des problèmes avec le lactose, c'est un ingrédient indispensable pour ajouter dans ses pâtes, dans une sauce pour des pâtes, un risotto, parce qu'on a des saveurs qui se rapprochent de quelque chose qu'ils connaissent, comme le parmesan.
Vérane Frediani.
Oui, en fait, je voulais rajouter, comme disait la chef Anto tout à l'heure, que ayant été au Congo, en République démocratique du Congo, que j'avais l'impression que finalement certains pays n'ont pas encore misé sur la gastronomie, la cuisine, les ingrédients. Et donc, ayant passé du temps là-bas avec le chef Hugues Benda, qui a son restaurant à Marseille, on s'est rendu compte que même prendre des photos des ingrédients, filmer, parler des recettes, écrire des recettes, tout ça est très compliqué encore dans beaucoup de pays du continent africain. Et en ce sens, le travail que fait Anto est formidable parce que ça permet aussi de mettre la lumière sur des ingrédients qui peut-être dans 10-20 ans seront complètement intégrés à la cuisine française, mais aujourd'hui, en fait, on a du mal même à les identifier.
Absolument.
Vous parliez de poivre, mais il y a toutes les céréales aussi, notamment celles qui n'ont pas de gluten, comme, le fonio. Vous avez aussi toutes les tubercules, on parle beaucoup du manioc, mais il y a le taro. Enfin, tout ça, en fait, nous serait très utile aussi, non seulement parce que ça pousse plus facilement que ce qu'on a aujourd'hui et avec moins d'eau, mais aussi parce que ça amène des nutriments différents dont on a besoin. Donc, il y a quand même une... il faudrait quand même écrire beaucoup plus de livres sur tout ça.
Ça continue. Le travail n'est pas terminé. Et d'ailleurs, l'épicerie dont on parlait dans Tococagne, Baraka, qui est une petite boutique dans le 15e arrondissement qui vend pas mal de produits, des épices, du thé, mais aussi des produits venant de marques coup de cœur qui travaille, puisque c'est très politique chez vous aussi en Tococagne, avec des coopératives en bio qui ont un impact social, qui travaillent certains produits comme le baobab, le miel, le vin d'ananas, vin entre guillemets, mais quand même c'est du jus d'ananas vinifié, la crème de bissap, les sauces évidemment mafé et yassa, la farine de niébé, ce haricot que vous aimez particulièrement. Et chez Baraka, on trouve aussi des tissus, des tabliers, des sets, des gants maniques, En wax, fait par des femmes artisanes, en clin d'œil à l'exposition qui a ouvert ses portes en Tococagne, au Musée de l'Homme à Paris, sur le wax, ce tissu évidemment coloré, importé d'Indonésie sur tout le continent africain et bien ailleurs aussi, puisqu'on le trouve partout désormais. Eh bien, nous avons trouvé à Paris un restaurant comme une boutique de wax, et son chef est avec nous par téléphone. Bonjour Laurent Kalala.
Bonjour, bonjour à vous.
Ce restaurant s'appelle Beaumaillet. Il est à Paris. Il y avait déjà une adresse Beaumaillet dans le 10e arrondissement et vous venez d'ouvrir dans le 11e rue de Charonne. Beaumaillet, c'est quoi? Vous racontez un peu Beaumaillet?
Oui, donc Beaumaillet, c'est deux restaurants qui font des burgers inspirés des plats africains avec pour objectif de faire découvrir les gastronomies africaines d'une manière ludique et simple aux personnes pour qu'ils aillent plus loin et aille vers les recettes traditionnelles.
Il y a une idée de démocratisation de la gastronomie africaine à Paris.
C'est ça, c'est une porte d'entrée vers la gastronomie africaine pour les gens qui ne connaissent pas ou pour les gens qui connaissent et qui veulent le manger d'une manière différente.
Alors, il y avait Beaumaillet 1, maintenant il y a Beaumaillet 2. Beaumaillet 2, l'intérieur est habillé, je le disais, de wax, du sol au plafond.
Exactement, Beaumaillet 2, c'est l'inspiration d'une boutique de wax. Durant notre voyage au Sénégal, au Congo, au Côte d'Ivoire, etc., au Madagascar, on est revenu avec plusieurs idées, et plusieurs idées aussi pour les recettes, mais aussi pour les lieux de vie qu'on souhaite créer. Et on s'est dit que ce serait très intéressant de s'inspirer d'une boutique de wax pour créer un lieu de vie. Et on s'en est inspiré, et on est allé plus loin que ça, on a pris l'histoire des Nana Bents. C'est une histoire de femmes qui sont devenues milliardaires grâce à la vente de wax. Et on s'est dit que ce serait intéressant de le mettre en avant parce que c'est un fait de l'histoire un peu méconnue, mais pourtant qui a été très forte dans les années 70 et qui a permis à beaucoup de femmes de s'émanciper.
Alors qu'est-ce qu'on mange à Beaumaillet 1 et 2? Des burgers, des bowls inspirés des cultures africaines, ça veut dire quoi, Laurent Kalala? Donnez-nous un ou deux exemples.
On mange des burgers inspirés du garba ivoirien, des burgers inspirés du yassa sénégalais, des burgers inspirés du poulet mayo congolais, ou des bols avec une base riz tchadienne et à l'intérieur différents condiments. Donc c'est vraiment de la fusion. Même si j'aime pas vraiment ce mot-là.
Vous non plus, attention, en tant que cocaïne non plus.
C'est un mot qui me fait un peu mal, mais c'est ce que pensent les gens quand ils rentrent chez nous. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend la gastronomie africaine, mais on la rend accessible aux gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Vraiment, c'est la première porte d'entrée. C'est comme ça que je préfère le dire. Donc, chez Beaumaillet, on trouve des burgers yassa, des burgers mafé, des burgers tibouguienne, etc. Et ça permet aux gens de découvrir ces saveurs.
Beaumaillet, c'est 16 rue de Paradis, 15 rue de Charonne à Paris. Merci beaucoup Laurent Kalala de nous avoir parlé de Beaumaillet. Sans parler de cuisine fusion, malgré tout, en Tococagne, vous faites bien une association, vous, entre cuisine européenne et cuisine africaine. Par exemple, on trouve dans votre Mon Afrique, votre livre, les spaghettis sauce dja.
Spaghettis sauce dja, parce que j'avais souvent cette question durant mes cours. Comment je peux utiliser vos recettes, mais dans ma cuisine de tous les jours? Et c'est vrai que les gens qui viennent, qui veulent goûter peut-être certaines sauces africaines, n'ont pas forcément envie de les associer à un plat africain. Et donc, ce livre-là, c'était vraiment de leur proposer des recettes alternatives et de dire, bah, avec vos pâtes de tous les jours, vous pouvez utiliser une sauce tomate béninoise qu'on appelle la sauce dja et de pouvoir agrémenter votre plat, vos gnocchis avec ça.
La recette de la sauce dja est d'ailleurs dans votre livre. Et vous nous avez offert pour le site de l'émission une entrée et un dessert, oui. Un plat salé, disons, et un plat sucré, le mijoté de lentilles à l'éthiopienne, fromage frais, et comme dessert, l'île flottante, crème cappuccino et
Amaroula.
Merci beaucoup, Anto Cocagne, d'être venu dans l'émission qui est déjà terminée. Mon Afrique, produit phare, savoir-faire, recette, est édité chez Mango. Un grand merci à vous également, Véran Frediani, d'avoir participé à cette émission. Anto Cocagne est l'un des entretiens de ce livre extrêmement riche qui est fait à la fois de 20 entretiens avec des chefs du continent africain qui, aujourd'hui, sont des Afropéens et qui renouvellent la cuisine en France, puisque ce livre s'appelle L'Afrique cuisine en France, mais il a aussi une soixantaine de recettes, donc on peut aussi s'en inspirer. Livre extrêmement intéressant également. Un merci à vous d'avoir participé. Toutes les informations, les adresses, les références, les cours d'Anto Cocagne aussi sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous comme d'habitude sur l'application de Radio France avec la petite équipe des bonnes choses. C'est Amboutata à la documentation, Brice Garcia aujourd'hui à la réalisation et Ludovic Auger à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.